étaient magnifiques. On le dit chaque semaine, mais c'est vrai. Moi, je trouve qu'ils étaient magnifiques. Ouais. Hervé, à toi. Merci beaucoup. On était là depuis 2 jours. Tu as béni nous. Voilà. Tu bénis par tes paroles. J'avais dit aussi que tu nous bénis, en tout cas toi, tu me bénis par ton cœur. Parce que le caractère, le ministère, c'est important, mais je vois ton cœur et ton amour, et c'est précieux. Sois béni.
Ça, ah, tu veux que ça... C'est pas si ça c'est bon. C'est bon, là
voilà. Oui, ça marche.
Impeccable. Voilà, c'est bien. Merci en tout cas, et très heureux d'être là. C'est vrai, c'est super de voir tous ces gens qui aiment le Seigneur et qui sont là. Vous savez, c'est un rassemblement d'une grande famille, hein. Dieu est le papa, il dit tous ses enfants. On est tous tellement différents, mais il rassemble la famille. C'est super que de se retrouver tous ensemble. On a plein de choses à se dire, plein de choses à mémorer, plein de choses à dire de ce que Dieu a fait dans la semaine, n'est-ce pas? Et je crois que Dieu a fait des belles choses. Puis peut-être que d'autres n'ont pas vécu grand-chose, mais rien que de se retrouver là, dans des temps comme ça d'adoration, de louange, notre cœur est transporté, on a envie d'aller plus loin, n'est-ce pas? Super, alors moi je me présente très vite, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là. Je m'appelle donc Hervé Guillois, j'habite Carcassonne, la plus belle ville au monde, après Nîmes. Ouf, ils ont eu chaud. Hein. En fait, c'est toutes les villes qui sont jolies en France. Hein. Mais quand même, chez nous, c'est spécial. Ça, c'est sauvage, il y a de tout, du bien et du mal. Mais c'est super comme région. C'est là où coulent les bons vins, les Corbières, Minervois, toutes ces bonnes choses. Hein, voilà. Je suis marié. Mon épouse s'appelle Chantal. C'est pour ça quand on chante Chantalleluia, ça, c'est. Voilà. Quand ça ne va pas, je fais ça. Et voilà. Bon. Enfin, je suis marié, donc 4 enfants, 2 filles, 2 garçons et 4 petits-enfants. Je suis un papé. Plus heureux des papés, c'est vraiment le rôle le plus merveilleux qui existe. Je peux jouer avec ma petite fille qui a 3 ans, à 4 pattes, et je fais la dinette. C'est rigolo. Ma femme m'a dit, tu te rends compte? Et c'est vrai qu'après, c'est dur à se relever, hein, mais voilà. Mais, et en fait, on fait la dinette, on fait semblant. C'est super, je trouve. Elle parle, elle raconte plein de choses qu'elle ne dira pas à ses parents. C'est extraordinaire, quoi. Voilà, on est là juste pour les gâter, et puis, quand je suis là. Mais sinon, je voyage beaucoup. Dieu m'a donné un ministère prophétique, et puis je voyage dans beaucoup de pays, beaucoup de nations, d'Afrique noire, pays arabes, le Népal aussi, beaucoup, beaucoup d'endroits, les pays anglophones aussi. Oui, Israël aussi, où je suis allé, où j'ai vécu de grandes choses, mais aussi, oui, Dieu est partout, c'est ça qui est extraordinaire. Je suis plus souvent en avion que sur la terre. En fait, je disais hier, je suis à 15 000 pieds, ils ont dit l'autre jour 15 000. Je dis, ça y est, c'est déjà ça pour être plus près de Jésus. Donc, je suis plus près de Jésus que vous. S'il arrive quelque chose, je suis déjà parti. Voilà, tout le monde d'un coup. C'est rigolo, d'ailleurs, on vit des grandes choses dans les avions. Hein. Vous n'avez jamais vu, quand il y a des perturbations, c'est extraordinaire, quoi. Parce que tout le monde prie dans l'avion, même celui qui ne croit pas. Trois jours, il faisait tout ça. Je dis, il prie, je ne sais pas quoi, mais il prie, quoi. Et j'ai dit, ça vaut le coup, là, de parler de Jésus. Mais oui, Dieu est au milieu de nous et on vit de belles choses. Elle est dans toutes ces nations... où même moi, je ne connais pas la langue. Je parle que le français. Et un jour, il y a une personne qui m'a dit, vous êtes vraiment français parce que vous parlez mal le français. C'est terrible quand quelqu'un dans la salle vous dit ça. J'étais là, ouh, c'est bon pour l'orgueil, ça. Hein. Et puis, c'est vrai que la langue française est très dure, hein, très dure. Mais je suis français quand même, voilà. C'est pour ça que je comprends les étrangers qui viennent. C'est dur pour eux d'apprendre cette langue, quoi. Il y a tellement la grammaire et tout, c'est dur, 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 dur. Voilà. Bref, en tout cas, je voyage beaucoup et je vois vraiment partout le même esprit, comme l'esprit de Dieu qui agit avec puissance. Je disais, j'ai jamais autant vu de ma vie de conversion dans les pays arabes que dans d'autres pays. Bonjour, je n'avais pas reconnu que vous étiez là. Dans les pays arabes ou dans d'autres pays, de voir comment Dieu agit et combien il y a des conversions extraordinaires. Je suis allé en Italie et dans cette région-là, j'ai eu jusqu'à 25 jeunes se convertir d'un seul coup, comme ça. D'ailleurs, mon cartable, c'est eux qui me l'ont offert. Alors, c'est pour ça que j'y tiens, je le promène partout. Voilà, ils avaient vu que le mien était très usé. Ils ont décidé de m'offrir un cartable. C'est formidable. Enfin, voilà, pour transporter ma Bible et tout. Bon, maintenant, la Bible, c'est bien pratique. Hein. Vous pouvez prendre un petit téléphone, il y a tout dedans. Et ça tient moins de place que la grosse Bible, ça. C'est la Bible moderne, ça va bien, ça. Voilà. Sinon, il y a des fois des pupitres, ils ne sont pas assez grands pour mettre la grosse Bible. Voilà. Hier, nous avons parlé des dons spirituels. Dieu veut donner des dons à son Église. Il veut absolument, il a répandu dans son esprit pour que nous recevions ces dons et que nous manifestions le royaume de Dieu sur cette terre. Si vous tous qui êtes assemblés ici viviez juste une petite partie des promesses de Dieu, tout Nîmes serait changé. Ça voudrait dire que la salle est trop petite. Il faudrait faire 2 cultes, 3 cultes. C'est vrai. Un jour, j'étais juste dans une ville en France et puis dans une église assemblée de Dieu. Il y a des bonnes choses aussi. Hein. Et il y avait 600 personnes dans cette église. Je parle premier jour, les gens avaient très peur de moi. Deuxième jour, ça se décontractait un peu. Troisième jour, ils ont vu que j'étais comme les autres, quoi. Et puis, le dernier jour, la puissance de Dieu était si forte. C'était le dimanche. Incroyable. Dieu me dit, Hervé, arrête de parler, va t'asseoir à ta place. Le pasteur me dit, vous allez parler, c'est comme ça. Je dis, si, Dieu m'a dit de m'asseoir aux côtés de vous et de le laisser faire. J'ai appelé le gars qui fait la louange, juste un gars, comme là il y avait, et il a commencé à la guitare à jouer. La puissance de Dieu est venue. Écoutez, toute la salle était à genoux et hurlait de leurs péchés. Les chrétiens qui confessaient leurs péchés. Des larmes, des cris, des peurs. Puis il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, fais un autre culte après-midi. L'après-midi, il dit, non, on ne l'a pas prévu. Tu n'as pas besoin de le prévoir. Dieu, il a déjà tout organisé. Alors il me dit, quand même, il ouvre la salle. Il y avait encore 600 autres personnes qui étaient là. D'où elles venaient, on ne sait pas. Mais Dieu a agi. L'après-midi, il y avait des conversions spectaculaires. Oui, tout ça, Dieu a donné son Saint-Esprit pour qu'on puisse manifester. Les gens décidaient, je crois et j'en suis sûr, que l'après-midi, il fallait qu'ils parlent autour d'eux, quoi. Et ils ont ramené des gens. Il y a une personne, elle ne supportait pas la louange. Elle allait partir. À peine elle allait partir, je l'appelle. Elle s'arrête. Et elle voulait vraiment filer. Dieu lui donne une parole. Elle tombe à genoux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner sa vie à Christ? L'église était remontée. Mais pas parce que c'est un homme qui fait ça. C'est parce que juste j'ai obéi à faire ce que Dieu me demandait de faire. Et il peut faire la même chose avec plein de gens ici. Mais il veut manifester sa puissance. Donc il nous donne des dons. Et le Seigneur nous a accordé des dons spirituels. Il nous a donné une puissance spirituelle, une compréhension toujours plus grande de sa parole, de son royaume. Ça, ce sont des armes extraordinaires pour combattre sur cette terre. Mais vous savez quoi? La meilleure arme que l'on a reçue, c'est l'amour du Père. C'est l'amour du Père. On va parler de 3 manteaux aujourd'hui que tout chrétien devrait revêtir. Le premier manteau, c'est l'amour du Père. Tant qu'on le marchera dans l'amour du Père, on ne va jamais faillir. L'amour qui est dans le Père doit être notre pain quotidien. Et nous recevrons cet amour, vous savez comment? Dans l'adoration. Dans l'adoration, il y a une réelle présence de Dieu et pendant ces temps-là, tout n'est plus pareil. On change. Je crois qu'on ne fera rien de plus merveilleux, de plus exactant que de l'adorer. Et je crois que c'est pour ça qu'on a été créé. Et c'est ce que nous vivrons pour l'éternité. Là-haut, tu vas louer tout le temps. Si tu t'ennuies aujourd'hui dans la louange, ça va être terrible là-haut. Parce que tout le monde va adorer Dieu, tout le monde va se prosterner, tout le monde va chanter. Oui, je crois que c'est la meilleure chose. Et pourquoi on s'ennuie des fois dans des moments de culte d'adoration? Parce que vous savez quoi? On a perdu le contact avec la réalité spirituelle à ces moments-là. On n'est plus branché. Combien de personnes ici, si on est honnête, peuvent dire « Moi, je n'ai rien vécu. Moi, j'ai fait comme les autres, mais je n'ai rien vécu. Pourquoi ? Parce que je suis englué dans tous mes problèmes. Combien de gens viennent comme cela ? Et pourtant, au moment où le contact est mis, on n'est plus sur la terre. Quand j'ai ces moments d'adoration, c'est comme s'il n'y avait plus personne autour de moi. Et je suis là, et c'est comme si la réalité de Dieu est en train de se faire en moi. Je le vois tel qu'il est. C'est extraordinaire. On a l'impression que Dieu est ici. On a l'impression que dans ces moments-là, il n'y a plus que lui et nous. Et tous nos soucis disparaissent. Tous nos bibis et nos bobos. C'est fou tous les bibis et les bobos qu'on a, vous savez. C'est incroyable, hein. Et pourtant, quand il y a ces moments d'adoration, il n'y a plus du tout de souffrance. Plus rien. C'est extraordinaire. On sent un peu dans ces moments-là comme la gloire de Dieu qui descend. Cette gloire qui se fait réelle au milieu de nous. Vous n'avez jamais vu la gloire de Dieu. Je vous assure que quand vous êtes dans ces temps d'adoration, la gloire est là. On a l'impression qu'on peut toucher Jésus. Il est là, tout à nos côtés. C'est extraordinaire et c'est formidable. Moi, je trouve qu'on devrait vivre beaucoup plus ces temps de visitation et d'amour avec le Père. Et on commence à voir aussi tout ce qui se passe dans le ciel et qui va descendre sur la terre. Dieu veut nous révéler les choses extraordinaires de là-haut. Vous savez, Jésus disait toujours, je ne fais que ce que je vois faire du Père. Il était en telle adoration devant son Père que son Père lui communiquait tout ce qui allait se passer. Et ça, c'est ce contact que Dieu veut. Et on ne peut voir ces choses qu'avec les yeux du cœur. Parce qu'avec les yeux humains, on est très limité. Quand tu vois quelqu'un, et s'il est triste, tu deviens triste. Vous savez quoi ? Il n'y a pas plus triste que de triste chrétien. C'est vrai. Mais je crois que Dieu veut nous apprendre à voir avec les yeux de notre cœur toute cette gloire, toute cette grandeur. Vous savez que quand c'est comme ça, plus rien ne devient impossible. On commence à vivre le ciel sur la terre. Moi, j'aime vivre ça. Je vais encourager les jeunes à aller voir leurs copains ou leurs copines d'études pour qu'ils puissent aller prier pour eux. Vous allez être étonnés le nombre de guérisons que vous allez vivre. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y avait un jeune de l'âge de lui, là, 13 ans, c'est ça? Et puis, il y avait un copain dans la cour qui s'est tordu le pied. Il est allé, il a prié pour son pied. Son pied s'est remis, plus rien. Pourtant, c'est un gars qui chahute. Un gars qui est un jeune normal, quoi. Mais il sait que Dieu est là. Et je crois que quand sa présence est là, on voit des choses extraordinaires. Je crois que pour cela que Jésus a dit qu'il fallait mieux qu'il quitte la terre et qu'il monte là-haut pour pouvoir répandre de son esprit sur toute chair. Sinon, on n'aurait jamais vécu ce qu'on vit aujourd'hui. Et Dieu veut nous apprendre ça. Pour pouvoir être un instrument de Dieu efficace, nous devons connaître l'amour inconditionnel du Père. C'est très important. Dans les Galates, au chapitre 2, verset 20, il est dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Depuis ce matin, on ne parle que de cet amour. Formidable, je crois qu'il n'y a qu'un seul esprit. Regardez le fil conducteur de ce que Dieu est en train de faire ce matin. C'est extraordinaire. Quand on le perçoit, Dieu veut qu'on connaisse cet amour du Père. Vous savez, aimer et s'aimer, ce n'est pas bisous-bisous, je vous assure. En France, on fait beaucoup de l'échouille. J'ai dit deuxième toilette. C'est vrai, mais pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas ça l'amour, ça va plus loin. Et vous savez comment Dieu m'a appris ça? À beaucoup de reprises, hein. J'avais rien compris. Ah, je pouvais dire à tout le monde, je vous aime, Ça, c'était pas un problème. Tant que tu vis pas avec les gens, c'est facile, quoi. Quand tu vis avec, c'est autre chose, hein. Mais un jour, j'étais dans une église au Liban. Vous savez où c'est, le Liban, là-bas, dans les pierres arabes. Et puis, j'allais dans une église, c'était juste après où toutes les maisons étaient déjà détruites par les coups de canon, en tout cas, du côté des musulmans. Les autres, ils avaient restauré, les chrétiens. J'étais dans un quartier chrétien. Et puis, bon, on a fait toute une semaine avec plein de jeunes. Et c'était vraiment super ce qu'on a vécu. Mais le dimanche, on nous a dit, il faut aller dans les églises locales. Alors, on m'a envoyé dans une église locale. Moi, je ne savais pas quelle était cette église locale. En fait, c'est une église non charismatique et je n'étais pas au courant du tout. Alors, je viens et puis je parle. Je voyais bien que les gens avaient l'air vraiment fermés, quoi. J'ai dit, oh, pas un qui bougeait le doigt. Tout le monde était vraiment nickel. J'ai dit, oh là là, où je suis tombé, quoi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait là? J'ai dit, quand même, pourquoi m'envoyer là? Parce que Dieu avait quelque chose à faire. En fait, vous imaginez quelqu'un de prophétique au milieu d'une église qui ne connaît pas les dons et qui n'accepte pas ces choses. Ils aiment Jésus, hein. Mais voilà, ils aiment la parole. Puis d'un seul coup, j'étais en train de parler. Dieu me montre tout au bout de la salle un homme. Et je dis cette parole, « Oh, tu étais dans le Hezbollah. Tu as égorgé 10 personnes devant tout le monde. » Tu as donné ta vie à Jésus et tu ne sais pas si Jésus t'a pardonné ton péché. Je te dis, aujourd'hui même, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez, dans la salle, plus une mouche ne volait. Fou. Le gars s'est levé. Il est venu devant en larmes. Et il a dit, c'est la vérité. J'ai égorgé 10 personnes. J'étais enrôlé dans le Hezbollah. J'ai tué des gens. J'ai donné ma vie à Jésus, je ne savais pas si j'étais pardonné de mes péchés. Rendez-vous compte, il vient comme ça devant, et Jésus me dit, Hervé, aime-le comme je t'aime. Moi, devant mes yeux, j'avais le gars qui égorgeait 10 personnes, avec mes yeux humains. C'est pas facile d'aimer quelqu'un qui a tué 10 personnes. Et pourtant, Dieu dit, pour qu'il sache que ses péchés sont pardonnés, je veux que tu lui communiques mon amour. Je dis, Seigneur, c'est vachement dur, quoi. En moi-même, je discute aussi avec le Seigneur. On n'est pas toujours d'accord, mais comme je disais hier, il a toujours raison, quoi. Alors, j'ai dit, Seigneur, comment je fais? Je pouvais prier juste pour lui. Il dit, aime-le comme je t'aime. Comment tu m'aimes, Hervé? Je dis, à grands bras, Seigneur. Alors, aime-le à grands bras. Je l'ai pris dans mes bras. Et je l'ai serré contre moi. Je n'ai pas dit un mot, mais la présence et l'amour du Père a coulé. Cet homme était bouleversé dans sa vie. Il pleurait. Et ce gars a compris que Dieu lui avait pardonné ses péchés. Puis, ce gars, ça c'est le clin d'œil de Jésus. Moi j'aime. Vous savez, j'étais régisseur d'un conservatoire de musique. Et ce gars, c'était un très, très grand pianiste soliste, un virtuose. Et ce gars, après qu'il ait tué les 10 personnes, a dit, mes mains ne toucheront plus jamais à un piano. Il y avait un piano à queue, les grands, les vrais, pas les comme ça, mais les vrais, voilà, qui était là. Et au moment... quand il a senti l'amour de Dieu, il est allé lui-même vers le piano, il a ouvert le piano, il s'est mis derrière le piano et il a joué Jean-Sébastien Bach, du Bach pour ceux qui connaissent. Mais c'était extraordinaire. Moi, j'avais étudié Jean-Sébastien Bach, comment il a composé ses musiques. C'était un gars qui était inspiré du Saint-Esprit. Mais il aurait pu jouer plein de choses. C'est ça qu'il a choisi. Et je me suis mis à pleurer à mon tour. C'est comme Dieu, il dit, tu vois, tu as communiqué mon amour, regarde comme je t'aime maintenant. C'est vraiment comme un échange de ce qui s'est produit. Je crois qu'on a besoin d'avoir ce manteau d'amour pour aimer les autres. Tu ne peux pas aimer avec ta force, avec ce que tu es, avec tes mots. Aimer, c'est beaucoup plus grand que cela, je crois. Dieu veut nous apprendre, Dieu veut que nous connaissions, que nous expérimentions cet amour pour devenir exactement comme lui. Et il nous faut connaître cet amour. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas l'amour de Dieu. C'est dit dans la parole, si même tu prophétisais et que tu faisais des grandes choses au nom de Dieu, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Cymbale qui résonne. Ça fait beaucoup de bruit, une cymbale, ces trucs. Mais c'est par comme ça. Je crois que Dieu veut changer nos cœurs. Et souvent, on dit dans les églises, « Oh, il n'y a pas d'amour. » Mais je crois que c'est à nous-mêmes déjà d'expérimenter cet amour. Et quand tu expérimentes, tu commences à sentir l'amour pour les autres et les autres te communiquent ce même amour. Mais on le sent quand quelqu'un a ce manteau d'amour. On ne peut pas faire autrement. Je crois que Dieu veut qu'on connaisse et qu'on expérimente cet amour. Ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Et Jésus a tant aimé le monde. Dieu lui a donné son Fils parce qu'il nous aimait. Il aime les êtres humains. C'est pour ça que dehors, partout, il aime les gens. Toutes ces créatures qui sont là, c'est lui qui a donné le souffle de vie. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, c'est lui. Et il veut aimer, il a donné son Fils pour que nous puissions connaître cet amour. Et c'est à nous à le communiquer, cet amour. Il faut être revêtu de cet amour. C'est important. Il est dit que sans l'amour, on n'est rien. L'amour nous garde fidèles. Il est dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, mais la plus grande sagesse, c'est de l'aimer. Et c'est juste ça que Dieu nous demande. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. C'est sacré truc. J'ai fait une étude sur ce verset. C'est fou. Quand l'amour de Dieu passe en nous et se communique vers les autres, c'est très très fort, n'est-ce pas? Premier manteau, l'amour. J'aurais eu tellement d'histoires à vous raconter parce que ce n'était pas la seule, mais bon, il faut avancer. Un autre manteau, c'est la sagesse. C'est le deuxième manteau que tout chrétien devrait revêtir. Amour, sagesse. Sagesse, c'est aimer. Tu ne pourras pas avoir la sagesse si tu n'aimes pas. Tu ne peux pas avoir la sagesse si tu n'aimes pas. C'est impossible. La sagesse, c'est aussi reconnaître les temps de chaque chose. La véritable sagesse connaît les temps et l'heure de Dieu. La sagesse, c'est ça. Il y a un homme qu'on disait de lui qui était rempli de sagesse. C'est dans 1 Roi 3, chapitre 3, verset 1 à 28. C'était Salomon. Et il disait, « Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni dénombré à cause de sa multitude. » Et Dieu propose au jeune roi Salomon une chose impressionnante. « Demande ce que tu veux que je te donne. » C'est fou quand Dieu te dit ça. « Demande. » Et lui aurait pu demander des choses incroyables. La faveur du peuple, la puissance militaire, des chefs dignes de confiance, de la force pour ressembler à David son père, très puissant. Mais Salomon avait appris une leçon forte en voyant son père vivre, qu'il a vu combien la fidélité, la justice et la droiture du cœur, et il a dit, moi, ce que je veux, c'est que tu me donnes la sagesse. Quelle grâce, un manteau de sagesse. Parce que quand tu as la sagesse, tout devient possible. J'ai dit, on connaît les temps, on connaît les moments, on connaît toutes choses quand tu as la sagesse. On sait ce qui va se passer, ce qui va aboutir, la sagesse. C'est important. Et il est dit que cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est la sagesse à la façon d'Hervé. Les grands théologiens, ils vont me reprendre après, mais écoutez bien. Je crois que c'est ça. La sagesse, c'est la pensée de Dieu. transplantée dans les cellules de notre cerveau. Je m'explique, il s'agit de la pensée de Dieu qui contrôle nos pensées plutôt qu'un talent de sagesse ou de perspicacité. Elle englobe une connaissance, un discernement immense qui surpasse nos propres capacités humaines. Ça, c'est la définition pour moi de la sagesse. Implanter en nous cette sagesse, c'est fou. Et dans la Bible, Tob, l'expression nous a donné un cœur intelligent, un cœur qui a de l'entendement. Un cœur, je pense, ça convient parfaitement. En hébreu, le mot cœur comprend intelligence, émotion et volonté. Et la véritable sagesse commence par une pensée guidée par Dieu et des émotions infusées et une volonté suscitée par Dieu. Ça, c'est la sagesse, n'est-ce pas? D'ailleurs, toutes les choses spectaculaires que Salomon a pu accomplir ont pour origine la sagesse profonde de l'Esprit de Dieu. Il n'opérait que comme ça. Parce que Salomon n'était pas très doué quand même. Oui, quand on connaît sa vie, mais du fait qu'il avait la sagesse de Dieu, tout devenait possible, n'est-ce pas? Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 1:24, nous savons bien mieux que Salomon ce qu'il faut demander. Paul a dit que Christ est la sagesse de Dieu. Plus tu as Christ qui habite en toi, plus la sagesse devient réelle. Plus tu le laisses grandir en toi, plus il prend la place en toi, plus à ces moments-là, la sagesse se manifeste. C'est un manteau extraordinaire. Et je crois que le christianisme dynamique, c'est Christ qui vit en nous et qui pense ses pensées au travers de nous. Ça veut dire que si Christ vit en toi, tu n'as plus besoin de prophète ni de ministère. En fait, si Dieu les a donnés pour amener les gens à apprendre à écouter ce que Dieu dit. Et c'est ça que Dieu veut aujourd'hui. Si Christ vit en nous, ses pensées vont se manifester au travers de nous. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas pouvoir lui dire ce que Dieu pense. C'est formidable, n'est-ce pas? Et ça, dans tous les cas et toutes situations. Et si réellement c'était vrai, alors on pourrait se demander ce que Christ vit en moi, quoi. Ça fait beaucoup d'interrogations. Je crois que ça veut dire que est-ce qu'il ne faut pas que tu le laisses grandir, quoi, pour qu'il conduise ta vie. Moi, je crois que Dieu veut nous apprendre ça, ce manteau de sagesse. Tous nos besoins se résument en un besoin essentiel, la sagesse de Dieu. Ça, c'est donc le deuxième manteau. Puis je vais parler d'un troisième manteau. Et ça, c'est important pour tous les chrétiens. C'est le manteau d'humilité. Ça, c'est très important. C'est comme, oui, un manteau de mise sur nous. L'orgueil, c'est l'ennemi le plus dur à affronter après avoir connu la gloire du Seigneur. Je vous assure. Ceux qui refusent de mettre ce manteau d'humilité souffrent. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Parce qu'ils ont besoin d'apprendre l'humilité. C'est vrai ou c'est faux? Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée. J'étais dans une réunion où j'étais avec les gens pendant une semaine complète. C'était super, les enseignements. La présence de Dieu était tellement forte, mais alors une puissance incroyable. Je ne tenais plus sur ma chaise tellement la présence de Dieu était là. Quand il m'a dit « Hervé, tu viens parler », j'ai eu un mal à venir derrière l'estrade, tellement la présence de Dieu était forte. Je parlais et les gens étaient guéris. J'ai vu, il y avait une fille qui avait son bras de cassé. J'ai entendu, non, ça fait « son bras s'est remis. Mais la puissance de Dieu était là. Waouh ! Et l'après-midi, ils vont tous faire des balades. On va voir les cascades. Hervé, tu viens avec nous. Moi, j'ai dit, oh non, il faut que je remercie le Seigneur de tout ce qu'il a fait. C'est formidable quand même, tout est grand spirituel. Alors, ils sont partis, bon, comme tu veux, quoi. Et puis, je suis parti dans les chemins, puis je remerciais le Seigneur, il y avait un trou. Mon pied tombe dedans, clac, une entorse. Ah, mon pied, il gonfle. Et j'entends Jésus qui dit, « Prends garde à toi, Hervé, qui est debout. Affermis tes chevilles. Tu es un vrai orgueilleux. » Je dis, « Seigneur, j'ai rien dit, je viens te remercier, quoi. » Oui, mais je ne me suis même pas rendu compte que l'orgueil arrivait dans ma vie. Vous savez, quand il y a l'orgueil, on ne s'en rend pas compte. Ça vient comme ça. Et là, pourtant, la bénédiction était là. Mais mon orgueil était grand, quoi. Et après ça, j'ai dit, mais Seigneur, comment je vais être ce soir? Comment ils vont dire de moi? Je veux que tu leur dises que tu es un véritable orgueilleux. Je dis, écoute, Seigneur, quand même pas. Hervé, je veux que tu leur dises. Je dis, d'accord, Seigneur. Puis il dit, mais j'ai mal, Seigneur. Ben, il dit, prie pour ton pied. Et je prie pour mon pied, il se remet, tout se dégonfle. Alors, j'aurais pu dire, oh, c'est bon, c'est pas la peine de leur dire, ils n'auront rien vu, quoi. Ouais, mais le soir, j'étais pas bien, quoi. Jusqu'à ce que je le dise à tous les gens. Je dis, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire, je suis un véritable orgueilleux. Oh, les gens, ils me regardent, pas possible, Hervé, quoi. Et je leur explique ce qui m'est arrivé. Écoutez, les gens étaient en larmes. La présence de Dieu est descendue, elle a encore été plus forte qu'elle ne l'était le matin. Parce que Dieu voulait que je voie que moi aussi, je peux tomber dans l'orgueil. Et que mettre un manteau d'humilité, c'est très important. Il faut régulièrement que l'on mette ce manteau. Je crois que ceux qui refusent de mettre ce manteau souffriront, j'ai dit. Vous savez, dans l'armure de Paul, en Éphésiens au chapitre 6, verset 10, il est parlé de toute cette armure. Mais dans le dos, il n'y a rien, vous avez remarqué? Ça veut dire que si tu fuis devant l'ennemi, tu es mort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts vite, quoi. Mais oui, spirituellement, parce qu'il tremble devant l'ennemi, il court pour fuir. Mais non, il faut que tu le confrontes. Celui qui est en toi, c'est Christ, donc tu peux le vaincre. Et je crois que c'est important. Mais celui qui s'avance dans l'orgueil est encore plus vulnérable que celui qui fuit devant l'ennemi. C'est encore plus fort. Pour Dieu, il ne supporte pas. Quand il y a l'orgueil, on ne s'en rend pas compte. Alors, on s'affaiblit. Alors, on abandonne vite le combat. Car l'ennemi, avec sa horde, ne veut pas nous rater. Puis avec l'orgueil, il y a la séduction. Puis la séduction, elle agit sur plusieurs niveaux. Souvent, ça nous amène à des doctrines de démons. Souvent, ce sont des personnes ayant été utilisées par Dieu. C'est ça qui est incroyable. Des fois, ayant même des ministères, des dons, l'orgueil est l'ennemi le plus difficile à discerner. On ne le voit pas. Il se cache. Ça, c'est important, ce manteau. Il est dit, prends garde de tomber lorsque tu crois être debout. Et c'est quand on pense qu'on risque le moins de tomber qu'on est en fait devenu les plus vulnérables. Et la plupart des hommes tombent juste après une grande victoire. Regardez Élie. Élie, il est tombé en dépression. Parce qu'il dit, t'as vu, 400 faux prophètes, là, je les ai eu tous eus, puis le feu, il a pris, Dieu, il a répondu, quoi. Mais il était un vrai orgueilleux, quoi. C'est tout n'est que grâce, quoi. C'est Dieu qui l'a fait. Et je crois que, oui, c'est pour ça qu'après il est tombé en dépression. Il y a beaucoup de chrétiens en dépression. Il faudrait peut-être demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'accuse pas, hein, juste. Souvent, c'est ça. Dieu veut vraiment nous révéler. Je crois que pour ne pas tomber, il faut rester toujours auprès du Seigneur, lui demander conseil, garder sur nous ce manteau d'humilité. Il est dit que le Seigneur est plus proche des sans-logis que des rois. Et je crois que tu n'as de force véritable que dans la mesure où tu marches dans la grâce de Dieu. Il est dit, il fait grâce aux humbles. Connaissez ce verset? Il fait grâce aux humbles. Tout est très clair, n'est-ce pas? Aucune arme ennemie ne peut pénétrer dans ce manteau d'humilité, car rien n'est plus fort que sa grâce. Tant que tu porteras ce manteau, tu seras gardé. Tu ne tomberas pas. Il faut veiller. Jésus est avec tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Vous voyez, le manteau d'humilité, c'est un manteau de grâce. C'est très important. Que quoi qu'il se passe, on n'y est pour rien. C'est lui qui est là. Nous, on est juste des vases de terre que Dieu veut utiliser. Et il se sert de nous comme des canaux pour toucher le monde entier. Mais c'est à cause de lui. C'est lui seul qui est honoré. On n'y est pour rien. Il est dit qu'il était doux et humble du cœur, Jésus. N'est-ce pas? Donc il n'est pas possible d'être orgueilleux ni arrogant lorsqu'on porte un vêtement aussi ordinaire que celui-là. Vous savez à quoi il ressemble, le manteau d'humilité? À un sac de jute. Vous connaissez les sacs à pommes de terre qu'on avait avant? C'est juste ça. Jésus n'avait ni beauté, ni attirance. Il était tout simple. Et je crois que Dieu veut qu'on revêt ce manteau. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on porte ces trois manteaux. Amour, humilité, sagesse. C'est très important ces trois manteaux. Sinon, ça ne sert de rien. Tu peux faire tout, mettre les pieds au plafond. Tu peux même marcher sur l'eau. Ça, c'est rien. Si tu n'as pas ces trois choses. Moi, je crois que Dieu veut changer dans nos personnalités. Il veut nous transformer. Il veut qu'on puisse revêtir ces manteaux pour aller et manifester le royaume, guérir les malades, ressusciter les morts. C'est incroyable comment Dieu fait, n'est-ce pas? Ce matin, j'ai entendu un témoignage d'une personne qui a été guérie hier. Mais c'est formidable, je trouve. Quelle grâce! Dieu donne une parole, puis il se sert de quelqu'un d'autre pour venir. Qui est-ce qui est guéri? C'est Dieu. C'est formidable. Je crois que Dieu veut faire beaucoup de choses encore. Mais voilà, à lui toute la gloire, à lui tout l'honneur. Quand on a des gens qui font des louanges comme ça, c'est super. C'est un homme humble en plus, extraordinaire. Mais en même temps, je crois qu'il y a la présence de l'Esprit. On était connectés, n'est-ce pas, tous les deux, avec le Saint-Esprit. Il y a tout un fil conducteur, c'est extraordinaire. Comment Dieu fait? Je crois que quand on est sensible, Dieu nous entraîne jusqu'au bout. Plus loin, plus près de lui. Il veut nous changer. Je crois que si nous réalisons tout ça, on serait une armée puissante, n'est-ce pas? Plus rien ne pourra nous résister. Parce que tout va être bouleversé et changé autour de nous. Il n'y aura plus de pauvres ni d'indigents. Il y aura largement assez pour tout le monde. Dieu manifestera sa gloire. Puis les choses se feront naturellement. Souvent, j'étais dans des endroits, j'avais l'impression qu'il fallait avoir une voix assez de ténor pour pouvoir arriver à avoir des guérisons. Seigneur Jésus. Puis je dis, moi, j'ai pas cette voix-là. Puis pourtant, ben voilà, je crois que Dieu ne criait pas, il était là, il passait, puis il guérissait les aveugles et les sourds, ils entendaient. On voyait vraiment, c'était naturel. Et ça doit être naturel chez nous, tout ça. Parce que si Christ habite en moi, alors tout est possible, n'est-ce pas? Et c'est si simple, et on est si compliqué. On veut tellement les choses compliquées. Pour Dieu, il n'y a rien de compliqué, quoi. Tout est simple, il suffit de faire ce qu'il nous demande. Et chacun peut bénir l'autre. Formidable, n'est-ce pas? Moi, j'ai vu une grand-mère en Écosse. Elle était dans un quartier le plus terrible de tous. Elle m'a amené chez elle. J'ai dit, waouh! J'ai dit, comment elle peut vivre comme cela, quoi? Mais cette femme, elle fait un tel bien autour d'elle et elle dit, je ne suis pas prêt de déménager. Je suis là où Dieu veut que je sois. Et elle bénit tous ces gens qui sont rejetés de la société, ces gens qui se droguent, ces gens qui sont dans l'alcool. Les gouvernements, ils n'arrivent à rien faire avec eux. Mais cette femme a fait un boulot immense, quoi. Et les gens se convertissent. Moi, je dis oui, tout simplement. Et pourtant, vous la voyez marcher, comme ça, dans la rue, avec son sac. Elle n'a rien d'attirer le regard, mais tout ce qu'elle fait. Et pourtant, dans l'église, personne ne la regarde. Elle est là, au bout de la salle, puis elle ne bouge pas. Mais tout ce qu'elle fait dehors. Je crois que c'est ça, ce manteau, cette présence de Dieu qui est en nous, ça doit couler, et puis... Qu'importe si les autres le voient ou pas, c'est tout ce que Dieu est en train de faire au travers de nous qui est important. Voilà, je voulais vous laisser avec tout ça. Donc, rappelez-vous ça, ça c'est très important, les trois manteaux, amour, sagesse, humilité. Revêtez-les. Mettez-vous devant Dieu quand vous serez chez vous. Demandez-lui, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer? Mais pourquoi je vis toutes ces choses difficiles? Je crois que quand Dieu va révéler nos cœurs, on va être surpris. Souvent, on dit c'est la faute de l'autre, mais là, on se rendra compte devant Dieu que c'est notre faute, quoi. Et Dieu veut changer quelque chose, n'est-ce pas? Donc voilà, je ne sais pas comment tu organises ça. Est-ce que je voudrais te donner une parole pour l'Église. C'est possible maintenant ?